Chapitre 11. Hadji Mourad était depuis 5 jours à Tiflis quand Loris Melikov, l'aide de camp de Vorontsov, se rendit près de lui sur l'ordre du général en chef. « Et ma tête et mes mains sont heureuses de servir le Sardar, » dit Hadji Mourad, avec son expression diplomatique habituelle, la tête inclinée et les mains appuyées contre sa poitrine. « Ordonne, » dit-il en fixant d'un regard doux les yeux de Loris Melikov. Loris Melikov s'assit dans un fauteuil qui se trouvait près de la table, et Hadji Mourad prit place en face de lui sur le divan bas, les mains appuyées sur ses genoux et la tête inclinée, écoutant attentivement ce que lui disait Loris Melikov. Celui-ci, qui parlait couramment le tatar, dit à Hadji Mourad que le prince, bien que connaissant déjà tout son passé, désirait apprendre de lui-même toute son histoire. « Tu raconteras, moi j'inscrirai, je traduirai en russe, et le prince enverra à l'empereur, » dit Loris Melikov. Hadji Mourad se taisait, non seulement il n'interrompait jamais son interlocuteur, mais il attendait toujours s'il ne voulait pas dire encore quelque chose. Ensuite, il releva la tête, repoussa son bonnet en arrière, sourit de ce sourire particulier, enfantin, qui avait charmé Marie Vassilievna. « Cela se peut, » dit-il, évidemment flatté à l'idée que l'histoire de sa vie serait lue à l'empereur. « Raconte, en tatar le « vous » n'existe pas, depuis le commencement, sans te presser, » dit Maurice Melikov, tirant de sa poche un carnet. « Cela se peut. » Seulement, il y a beaucoup à raconter. Il y a eu beaucoup d'événements, dit Hadji Mourad. Si tu ne peux pas tout raconter aujourd'hui, tu termineras un autre jour, dit Loris Melikov. Faut-il commencer par le commencement? Oui, dès la naissance. Où tu es né, où tu as vécu? Hadji Mourad baissa la tête et longtemps resta assis ainsi. Ensuite, il prit une petite baguette qui était près du divan, tira de dessous son poignard un petit couteau à manche d'ivoire incrusté d'or, tranchant comme un rasoir, et se mit à taillader la baguette en même temps qu'il parlait. Écrit. Je suis né à Tselmes, un petit aoul, pas plus grand qu'une tête d'âne, comme on dit chez nous, commença-t-il. Non loin de là, à 2 portées de fusil, se trouve Kunzak, où les Khans vivaient. Notre famille était très liée avec eux. Quand ma mère mit au monde mon frère aîné, Osman, elle fut prise comme nourrice du fils aîné du Khan, Abounounsan Khan. Plus tard, elle a encore nourri un autre fils de Khan, Oulim Khan. Elle l'a très bien nourri, mais mon second frère, Akhmet, mourut. Quand je naquis, la femme du Khan mit aussi un enfant au monde, Boulach Khan. Ma mère refusa d'aller le nourrir. Mon père le lui ordonnait, mais ma mère refusait. Elle disait « Cela tuerait encore le mien, je n'irai pas. » Alors mon père, qui était très violent, la frappa de son poignard et l'eût tué si quelqu'un ne fût venu à son secours. Et ainsi, elle ne m'abandonna point. Par la suite, elle composa sur ce sujet une chanson, mais cela, il ne faut pas le raconter. « Non, il faut tout raconter, » dit Loris Melikov. Hadji Mourad devint pensif. Il se rappelait sa mère, quand elle le faisait coucher près d'elle sous sa pelisse, sur le toit de la cabane, et qu'il lui demandait de lui montrer sur son côté la trace de la blessure. Il se rappelait la chanson et la dit. « Ton poignard aigu a déchiré ma poitrine blanche. Moi, j'ai approché de cette blessure mon soleil, mon petit garçon. Je l'ai lavé avec mon sang chaud, et la blessure s'est fermée sans herbe ni racine. Je n'ai pas eu peur de la mort, et mon fils, qui sera brave, lui non plus n'en aura pas peur. Voilà, c'est ma mère qui est maintenant chez Chamil, et il faut la sauver, » dit Hadji Mourad. Il se rappelait la fontaine au pied de la montagne, où, s'accrochant au pantalon de sa mère, il allait avec elle chercher de l'eau. Il se rappelait comment, pour la première fois, elle lui avait rasé la tête, et comment il aperçut avec étonnement sa tête ronde et bleuâtre dans le plateau de cuivre brillant suspendu au mur. Il se rappelait le chien maigre qui lui léchait le visage et l'odeur particulière de fumée et de lait aigre quand sa mère lui donnait des biscuits. Il se rappelait comment sa mère le portait à travers la montagne derrière son dos dans un panier pour aller au hameau où habitait le grand-père. Il se rappelait son grand-père, un homme ridé à barbe blanche. Il revoyait ses mains veinées incrustant l'argent et se rappelait comment il l'obligeait, lui son petit-fils, à dire les prières. « Oui, ma mère n'alla pas nourrir le fils du Khan, » reprit-il en secouant la tête. La femme du Khan prit une autre nourrice. Mais malgré cela, elle aimait ma mère. Et quand nous étions petits, ma mère nous amenait dans le palais du Khan et nous jouions avec ses enfants. Et la femme du Khan nous aimait. Il y avait trois Khans, Abu Nunsan Khan, frère de lait de mon frère Ousman, Khan et Boulach Khan, le cadet, celui que Chamil jeta dans un précipice. Oui, mais cela, j'en parlerai après. J'avais environ 16 ans quand les murides commencèrent à aller dans les aouls. Ils frappaient les pierres avec des bâtons et criaient « Musulmans, la guerre sainte !» Tous les Tchétchènes passèrent aux murides et les Abbas aussi commencèrent à se ranger de leur côté. Je vivais alors dans le palais. J'étais comme le frère des Khans. Je faisais ce que je voulais et j'étais devenu riche. J'avais des chevaux, des armes, de l'argent. Je vivais pour mon plaisir et je ne pensais à rien. Et je vécus ainsi jusqu'au jour où l'on tua Kazamoula et que Gamzat fut nommé à sa place. Gamzat envoya au Khan des émissaires pour lui dire que s'il ne se ralliait pas à la guerre sainte, il ruinerait Kazenzak. Il fallait y réfléchir. Mais le Khan avait peur des Russes. Il avait peur de se rallier à la guerre sainte, et la femme du Khan m'envoya avec son second fils, Ulim Khan, à Tiflis, pour demander au principal chef russe l'aide contre Gamzat. Le principal chef était le baron Rosen. Il ne reçut ni moi ni Ulim Khan, et nous fit dire qu'il nous aiderait, mais il n'en fit rien. Seulement, ses officiers commencèrent à venir chez nous, jouèrent aux cartes avec Ulim Khan. Ils lui faisaient boire du vin, le menaient dans de mauvais lieux et lui faisaient perdre aux cartes tout ce qu'il avait. Il était, de corps, fort comme un bœuf et courageux comme un lion, mais d'âme, il était faible comme l'eau. Il eût perdu ses derniers chevaux et ses armes si je ne l'avais emmené. Après Tiflis, mes idées changèrent et je commençai à pousser la femme du Khan et les jeunes Khans à accepter le Khazavat, la guerre sainte. « Pourquoi tes idées avaient-elles changé ?» demanda Loris Melikov. « Est-ce que les Russes t'avaient déplu ?» Hadji Mourad garda le silence. « Oui, ils m'avaient déplu, » reprit-il résolument en fermant les yeux. « Et il y avait encore une raison pour laquelle je voulais accepter la guerre sainte. »« Laquelle ?» Près de Tselmes, nous nous heurtâmes, le Khan et moi, contre 3 murides. 2 s'enfuirent, je tuai le 3e d'un coup de pistolet. Quand je m'approchai de lui pour le dépouiller de ses armes, il était encore vivant. Il me regarda et me dit « Toi, tu m'as tué. Moi, je me sens bien. Tu es un musulman jeune, jeune et fort. Accepte la guerre sainte, Dieu l'ordonne. » « Eh bien, est-ce que tu l'as accepté ?»« Non, je ne l'ai pas accepté. Mais j'ai commencé à réfléchir, » répondit Hadji Mourad, et il continua son récit. Quand Gamzat fut venu près de Kunzan, nous envoyâmes chez lui les vieillards avec mission de dire que nous consentirions à accepter la guerre sainte s'il voulait d'abord nous envoyer un savant quelconque pour nous expliquer comment il nous faudrait alors nous comporter. Gamzat ordonna de raser les moustaches aux vieillards, de leur percer les narines et de leur suspendre au nez des biscuits. Puis il les renvoya. Les vieillards racontèrent que Gamzat était prêt à envoyer le chèque pour nous instruire de la guerre sainte, mais sous la condition que la femme du Khan lui envoie comme otage son fils cadet. La femme du Khan eut confiance et envoya Boulach Khan chez Gamzat. Celui-ci le reçut bien et nous fit prier de venir chez lui ainsi que le fils aîné. Il avait ordonné de leur dire qu'il était prêt à servir le Khan comme son père avait servi leur père. La mère des Khans était une femme faible, stupide et impertinente comme toutes les femmes qui vivent à leur guise. Elle eut peur d'envoyer ses 2 fils, et n'en envoya qu'un, Ulim Khan. Je l'accompagnais. Une verste avant l'arrivée, les murides nous rencontrèrent. Ils chantaient, tiraient des coups de fusil, caracolaient autour de nous. et comme nous arrivions, Gamzat lui-même sortit de sa tente, s'approcha de l'étrier d'Ulim Khan et le reçut comme on reçoit un Khan. Il lui dit « Je n'ai fait à votre maison aucun mal et n'en veux faire. Seulement ne me tuez pas et ne m'empêchez pas d'amener les hommes à la guerre sainte. Et moi je vous servirai avec toute mon armée comme mon père a servi votre père. Laissez-moi vivre dans votre maison, je vous aiderai de mes conseils et vous en ferez ce que vous voudrez. » Ulim Khan était stupide en paroles, il ne savait que répondre et se taisait. Alors je dis que s'il en était ainsi, Gamzat devait venir à Kunzak, que les Khans et leurs mères le recevraient avec honneur. Mais on ne me laissa pas achever, et ici, pour la première fois, Shamil se dressa contre moi. Il se trouvait là, près de l'Iman. « Ce n'est pas à toi que l'on parle, mais au Khan, » me dit-il. « Je me tue. » Gamzat conduisit Ulim Khan dans sa tente. Ensuite il m'appela et m'ordonna de retourner avec mes envoyés à Kunzak. Je partis. Les émissaires se mirent à supplier la mère de laisser partir son fils aîné chez Gamzat. J'avais flairé la trahison. Je lui conseillais de ne pas envoyer son fils. Mais il y a autant d'esprit dans la tête d'une femme que de cheveux sur un œuf. Elle eut confiance et ordonna à son fils de partir. Abu Nunsan ne le voulait pas. Alors elle lui dit « Évidemment, tu as peur. » Comme l'abeille, elle savait en quel endroit la piqûre est la plus douloureuse. Abu Nunsan s'enflamma et, sans rien dire à sa mère, ordonna de seller les chevaux. Je partis avec lui. Gamzat nous reçut encore mieux qu'il avait reçu Ulim Khan. Il vint lui-même à notre rencontre, à la distance de 2 portées de fusil de sa demeure, au pied de la montagne. Derrière lui marchaient des cavaliers portant des insignes. Ils chantaient, tiraient des coups de fusil, caracolaient. Quand nous arrivâmes au camp, Gamzat introduisit le Khan dans sa tente, moi je restais près des chevaux. Je me trouvais au pied de la montagne, quand dans la tente de Gamzat commença la fusillade. J'ai couru. Ulim Khan était étendu sur le ventre, dans une mare de sang. Abu Nunsan se battait contre les murides. La moitié de son visage était coupée et pendait. Il la retenait d'une main, et de l'autre, qui tenait un poignard, il frappait tous ceux qui s'approchaient de lui. Sous mes yeux, il tua le frère de Gamzat et allait se jeter sur un autre quand un muride tira sur lui. Il tomba. Haji Murad s'arrêta. Son visage bronzé rougit et ses yeux s'injectèrent de sang. Saisi de frayeur, je m'enfuis. « Ah ah !» fit Maurice Milikov. « Moi qui pensais que tu n'avais jamais eu peur de rien. » « Dans la suite, jamais. » Depuis, je me rappelle toujours cette honte, et quand je me la rappelle, je n'ai plus peur de rien. Chapitre 12. Et maintenant, assez. Il faut prier, dit Haji Murad, et il tira de la poche intérieure de son vêtement le chronomètre de Voronsov. Soigneusement, il en pressa le ressort, et, inclinant de côté la tête et retenant un sourire enfantin, il écouta. La montre sonna 12 coups et 1/4. « C'est un cadeau de mon ami Voronsov, » dit-il en souriant. « Oui, la belle montre, » dit Loris Melikov. « Eh bien, prie, j'attendrai. » « Très bien, » dit Haji Murad, et il passa dans sa chambre. Resté seul, Loris Melikov inscrivit dans son carnet l'essentiel de ce que lui avait raconté Haji Murad. Ensuite, il alluma une cigarette et se mit à marcher de long en large dans la chambre. En s'approchant de la porte opposée à la chambre à coucher, Loris Melikov entendit des voix animées d'hommes qui parlaient très rapidement en tatar. Il devina que c'était les murides de Haji Murad, et, ouvrant la porte, il entra chez eux. La pièce qu'ils occupaient était imprégnée de cette odeur particulière, aigre, de cuir propre aux montagnards. Sur le parquet était assis sur un manteau le roux et borgne Gamzalo en beshmet graisseux et déchiré. Il fabriquait une bride, et, de sa voix rauque, disait quelque chose avec animation. À l'entrée de Loris Melikov, il se tut, et, sans faire attention à lui, continua sa besogne. En face de lui se tenait debout le joyeux Khan Magom. Ses yeux noirs, sans cils, brillaient, et, montrant ses dents blanches, il répétait toujours la même chose. Le bel Eldar, les manches retroussées découvrant ses bras musclés, nettoya la sangle d'une selle suspendue à un clou. Canefi, le principal travailleur, qui administrait tout le ménage, ne se trouvait pas dans la chambre. Il préparait le dîner dans la cuisine. « De quoi discutez-vous ? » demanda Loris Melikov à Khan Magom, après l'avoir salué. « Mais il ne cesse de vanter Chamil, » répondit Khan Magom, en tendant la main à Loris Melikov. « Il dit que Chamil est un grand homme, un savant, un saint, un brave. Comment se fait-il donc qu'il l'ait quitté, s'il continue à le vanter ?»« Voilà, il s'en est allé et le vante, » dit Khan Magom, les yeux brillants, en montrant ses dents. « Pourquoi le regardes-tu comme un saint ?» demanda Loris Melikov. « S'il n'était pas saint, le peuple ne l'écouterait pas, » prononça rapidement Gamzalo. « Ce n'est pas Chamil qui est un saint, mais Mansour, » répliqua Khan Magom. « Celui-là était un vrai saint. Quand il était iman, tout le peuple était autrement. Il visitait tous les aouls, et le peuple sortait à sa rencontre, baisait le bas de ses vêtements, se repentait de ses péchés et jurait de ne rien faire de mal. Et les vieux disent qu'alors tous les hommes vivaient comme des saints, ne fumaient pas, ne buvaient pas, priaient sans cesse, se pardonnaient leurs offenses, même pardonnaient le meurtre. Alors on attachait à des poteaux l'argent, les objets, et on les exposait sur la route. Alors Dieu donnait au peuple le succès en tout. Ce n'était pas comme maintenant. Maintenant non plus, dans les montagnes, on ne boit pas et ne fume pas, objecta Gamzalo. Ton Chamil est un lamoreille, dit Khan Magom en clignant des yeux dans la direction de Loris Melikov. Lamoreille était le nom méprisant des montagnards. Un montagnard lamoreille, répondit Gamzalo. Dans la montagne ne vivent que les aigles. Bravo, bien répondu, applaudit Khan Magom en montrant ses dents, réjoui de l'habile réponse de son adversaire. Remarquant le porte-cigarette en argent que tenait Loris Melikov, Khan Magom lui demanda de quoi fumer. Loris Melikov lui ayant fait remarquer qu'il leur était défendu de fumer, il cligna d'un œil en indiquant de la tête la chambre de Hadji Mourad et répondit qu'on pouvait fumer tant que lui ne le voyait pas. Et aussitôt, il se mit à fumer en fronçant malhabilement ses lèvres rouges pour rejeter la fumée. « Ce n'est pas bien, » dit sévèrement Gamzalo, et il sortit de la chambre. Khan Magom cligna de l'œil sur lui et, en continuant de fumer, se mit à interroger Loris Melikov pour savoir où il était préférable d'acheter un beshmet de soie et un bonnet blanc. « Vraiment, tu as donc tant d'argent ?»« Oui, pas mal, » répondit Khan Magom. « Demande-lui d'où lui vient l'argent, » dit Eldar, en tournant vers Loris Melikov son beau visage souriant. « J'ai gagné au jeu, » prononça rapidement Khan Magom. Il raconta que la veille, en se promenant à Tiflis, il avait vu un groupe de Russes et d'Arméniens qui jouaient à pile ou face. Il y avait à l'enjeu 3 grandes pièces d'or et beaucoup d'argent. Khan Magom avait aussitôt compris le jeu, et, faisant tinter la monnaie de billon qu'il avait dans sa poche, il s'était glissé dans le cercle et avait dit qu'il jouait le tout. « Comment, le tout ? « Avais-tu donc tant d'argent ?» lui demanda Loris Melikov. « Non, j'avais en tout 12 kopecks, » répondit Khan Magom en montrant les dents. « Eh bien, et si tu avais perdu ?»« Voilà !» et Khan Magom montra son pistolet. « Quoi, tu l'aurais donné ?»« Pourquoi donner ? Je me serais enfui, et si quelqu'un avait voulu m'arrêter, je l'aurais tué. Voilà tout. »« Alors, tu as gagné ?»« Aïa, j'ai ramassé tout et suis parti. » Loris Melikov comprenait parfaitement Khan Magom et Eldar. Khan Magom était un garçon joyeux et noceur, qui ne savait à quoi dépenser l'excès de vie qu'il sentait en soi, toujours gai, insouciant, jouant sa vie et celle des autres. À cause de ce jeu de la vie, il était venu maintenant chez les Russes, et demain, pour la même raison, il se pourrait qu'il retournât chez Chamil. Eldar aussi était très compréhensible. C'était un homme entièrement dévoué à son chef, calme, fort, de volonté ferme. Le seul que ne pouvait comprendre Loris Melikov, c'était le roux Gamzalo. Loris Melikov voyait que cet homme non seulement était un admirateur de Chamil, mais qu'il éprouvait pour tous les Russes un dégoût invincible, du mépris et de la haine. Aussi, Loris Melikov ne pouvait-il comprendre pourquoi il était venu chez les Russes. Il lui était venu la pensée, partagée par quelques-uns des chefs, que le ralliement de Hadji Mourad et ses dires sur son hostilité envers Chamil n'étaient que tromperies, qu'il n'était venu chez les Russes que pour bien voir leur côté faible, mais qu'ensuite il s'enfuirait de nouveau dans les montagnes et là dirigerait ses forces sur les points où les Russes étaient faibles. Et Gamzalo, par toute sa personne, confirmait cette supposition. Les autres et Hadji Mourad lui-même savent cacher leur jeu, pensait Loris Melikov. Mais celui-ci se trahit par une haine qu'il ne peut dissimuler. Loris Melikov avait essayé de causer avec lui. Il lui avait demandé s'il ne s'ennuyait pas. Mais Gamzalo, sans quitter ses occupations, louchant de son œil unique sur Loris Melikov, avait grommelé brièvement, d'une voix rauque, « Non, je ne m'ennuie pas. » Et il répondait de la même façon à toutes les autres questions. Pendant que Loris Melikov se trouvait là, le quatrième muride de Hadji Mourad, Kanefi, entra aussi. Le visage de type Abbas, velu, ainsi que son cou et sa poitrine bombée, couverte de poils touffus comme de la mousse, Kanefi était un travailleur qui ne réfléchissait pas trop, qui était toujours absorbé dans son travail et qui, comme Eldar, obéissait à son maître sans discuter. Quand il entra dans la chambre pour chercher le riz, Loris Melikov l'arrêta et lui demanda d'où il était et s'il servait depuis longtemps à Hadji Mourad. « 5 ans, répondit Kanefi à la question de Loris Melikov. Je suis du même aoul que lui. Mon père ayant tué son oncle, ils voulurent me tuer, dit-il en regardant très tranquillement, de dessous ses sourcils croisés, le visage de Loris Melikov. Alors j'ai demandé d'être accepté comme frère. Qu'est-ce que cela veut dire, être accepté comme frère? Pendant 2 mois, je ne me suis pas rasé la tête, je ne me suis pas coupé les ongles, et je suis venu chez eux. Ils m'ont laissé entrer chez Patimat, sa mère. Patimat m'a donné le sein, et je suis devenu son frère. La voix de Hadji Mourad se fit entendre dans la chambre voisine. Aussitôt, Eldar reconnut l'appel de son maître. Il s'essuya vivement les mains et à grands pas alla dans le salon. « Il t'appelle chez lui, » dit-il en retournant. Après avoir donné encore une cigarette au joyeux Khan Magom, Loris Melikov passa dans le salon. Chapitre 13. Quand Loris Melikov entra au salon, Hadji Mourad le rencontra d'un air joyeux. « Eh bien, faut-il continuer ? » demanda-t-il en s'asseyant sur le divan. « Certainement, » répondit Loris Melikov. « Et moi, pendant ce temps, je suis allé chez tes serviteurs. J'ai causé avec eux. »« L'un d'eux est un très joyeux garçon, » ajouta Loris Melikov. « Oui, Khan Magom, un esprit léger, » dit Hadji Mourad. « C'est le jeune et beau garçon qui m'a plu le mieux. »« Ah, Eldar ! Celui-ci est jeune, mais il a une volonté de faire. » Ils se turent. Alors, faut-il continuer? Oui, oui. J'ai raconté comment les Khans avaient été tués. Eh bien, Khamzat, après les avoir tués, rentra à Kunzak et s'installa dans le palais des Khans, poursuivit Hadji Mourad. La mère des Khans restait. Khamzat la fit appeler chez lui. Elle se mit à lui adresser des reproches. Il fit un signe de tête à son muride Azaldar, et celui-ci la frappa par derrière et la tua. Pourquoi la fit-il tuer? Demanda Loris Melikov. Mais comment pouvait-il en être autrement? Une fois qu'on a fait avancer les jambes de devant, il faut faire avancer les jambes de derrière. Ce qui est commencé, on le finit. Il fallait exterminer toute la famille. Ainsi firent-ils. Chamil tua le cadet en le jetant du haut d'un précipice. Toute la basie se soumit à Khamzat, mais moi et mon frère, nous ne voulûmes pas nous soumettre. Nous devions venger par le sang des Khans. Nous feignîmes de nous soumettre, mais nous n'avions qu'une seule pensée, nous venger de lui. Nous avons alors demandé conseil au grand-père et avons résolu d'attendre sa sortie du palais et de le tuer dans un guet-apens. Quelqu'un ayant surpris notre projet alla tout raconter à Khamzat. Il fit appeler chez lui notre grand-père et dit « Prends garde ! S'il est vrai que tes petits-fils projettent quelque chose de mauvais contre moi, tu seras pendu avec eux à la même potence. J'accomplis l'œuvre de Dieu, et nul ne peut m'en empêcher. Va, et souviens-toi de mes paroles. » Le grand-père s'en vint nous raconter tout. Alors nous décidâmes de ne pas attendre et de faire notre besogne le premier jour de fête dans la mosquée. Les camarades ayant refusé, nous restâmes seuls, moi et mon frère. Chacun de nous prit 2 pistolets, et, enveloppés de nos manteaux, nous nous rendîmes à la mosquée. Gamzat y entra, escorté de 30 murides, tous tenant l'épée nue. Azaldar, son muride favori, celui-là même qui avait tranché la tête de la mère des Khans, nous aperçut. Il nous cria d'enlever nos manteaux et s'approcha de moi. J'avais mon poignard à la main, je le tuai. Puis, aussitôt, je me jetai sur Gamzat. Mais mon frère, Osman, avait déjà tiré sur lui. Gamzat était encore vivant, et le poignard à la main, il se jeta sur mon frère. Mais je l'achevai d'un coup à la tête. Il y avait 30 murides, et nous n'étions que 2. Ils tuèrent mon frère Osman. Moi, je me débattis, et bondissant par la fenêtre, je m'enfuis. À la nouvelle que Gamzat était tué, tout le peuple se souleva et les murides s'enfuirent. Ceux qui ne réussirent pas à s'enfuir furent tués. Hadji Mourad s'arrêta et respira profondément. « Tout cela était fort bien, » continua-t-il. Mais bientôt tout se gâta. Shamil prit la place de Gamzat. Il envoya chez moi un messager me dire de m'unir à lui pour marcher contre les Russes. En cas de refus de ma part, il me menaçait de ravager Kunzak et de me tuer. Je répondis que je n'irai pas chez lui et ne le laisserai pas entrer chez nous. « Pourquoi donc n'es-tu pas allé chez lui ?» demanda Loris Milikov. Hadji Mourad fronça les sourcils et ne répondit pas tout de suite. On ne le pouvait pas. Shamil avait sur lui le sang de mon frère Osman et celui d'Abu Nutsan. Je n'allais pas chez lui. Le général Rosen me donna alors le grade d'officier et m'ordonna d'être le chef de la basie. Tout aurait très bien marché, mais Rosen, au commencement, avait nommé chef de la basie le Khan de Nazikoumisk, Mahomet Mourza, et ensuite son frère Ahmed Khan. Celui-ci me haïssait. Il avait voulu que son fils épousât la fille de la Khan Saltanate, on ne la lui donna pas. Il pensa que c'était de ma faute. Il me haïssait et envoya ses serviteurs pour me tuer. Je parvins à leur échapper, alors il fit une dénonciation contre moi au général Klugenau. Il lui dit que je défendais aux Abbases de donner du bois aux soldats. Il lui dit encore que j'avais mis le turban, celui-ci, dit Hadji Mourad, en indiquant le turban entourant son bonnet, et que cela signifiait que j'étais entré au service de Shamil. Le général ne le crut pas et ordonna de ne pas me toucher. Mais quand le général partit pour Tiflis, Ahmed Khan mit à exécution un projet qu'il avait conçu. Il me fit saisir par une compagnie de soldats, on m'enchaîna et m'attacha à un canon. Durant 6 jours, ils me gardèrent ainsi. Le 7e jour, on me détacha et on m'amena à Ternir Kanchoura. 40 soldats, le fusil chargé, m'escortaient. On m'avait attaché les mains et on avait donné l'ordre de tirer sur moi à la moindre tentative de fuite. Je le savais. En approchant de Monch, il y avait un chemin très étroit bordé à droite d'un précipice d'environ 50 sagènes de profondeur. M'écartant des soldats, je marchais à droite au bord du précipice. Un soldat voulut m'arrêter, mais je m'élançai dans le précipice en l'entraînant avec moi. Le soldat se tua, et moi, comme vous voyez, je suis resté vivant. Les côtes, la tête, les bras, les jambes, tout était brisé. Je voulus me traîner en rampant, impossible. La tête me tournait, et je m'endormis. Je m'éveillai, j'étais tout trempé de sang. Un berger m'aperçut, il appela à l'aide et on me transporta dans la houle. Les côtes, la tête guérirent. La jambe se cicatrisa aussi, mais elle est restée un peu plus courte. Et Hadji Mourad étendit sa jambe courbée. « Mais je puis m'en servir, et c'est encore bien, » dit-il. Le peuple apprit qui j'étais, et on commença à venir me voir. Je guéris et m'installai à Tselmes. Les Abbases m'appelèrent de nouveau pour les diriger, dit Hadji Mourad avec un orgueil calme et sûr. J'y consentis. Hadji Mourad se leva rapidement, alla prendre dans un sac un grand portefeuille, duquel il tira 2 lettres jaunies qu'il tendit à Loris Melikov. Ces lettres étaient du général Klugenau. Loris Melikov les lut. Dans la première, il était dit « Lieutenant Hadji Mourad, tu as servi sous mes ordres. J'étais content de toi et te considérais comme un brave. Récemment, le général Ahmed Khan m'a informé que tu es un traître, que tu portes le turban, que tu es de connivence avec Chamil, que tu enseignes au peuple à ne pas obéir aux autorités russes. J'ai ordonné de t'arrêter et de t'amener chez moi. Tu t'es enfui. Je ne sais si cela est mieux ou pire, car j'ignore si tu es coupable ou non. Maintenant, écoute-moi. Si ta conscience ne te reproche rien contre le grand tsar, si tu n'es coupable en rien, viens chez moi, ne crains personne. Je suis ton défenseur. Le Khan ne te fera rien, lui-même est mon subordonné. Ainsi donc, tu n'as rien à craindre. » Plus loin, Klugunau écrivait qu'il tenait toujours sa parole, qu'il était juste, et exhortait Hadji Mourad à venir chez lui. Quand Loris Melikov eut terminé la première lettre, Hadji Mourad prit l'autre, mais avant de la remettre à Loris Melikov, il raconta ce qu'il avait répondu à cette première lettre. « Je lui écrivis que je portais le turban, non pas à cause de Chamil, mais pour le salut de mon âme, que je ne voulais point me rallier à Chamil, et du reste ne le pouvais pas, car il était cause que mon père, mon frère, mes parents avaient été tués, mais que je ne pouvais pas non plus me rallier aux Russes, parce qu'on m'avait déshonoré. À Kunzak, quand j'étais attaché, un lâche m'avait souillé, et que par conséquent je ne pouvais me rallier tant que cet homme ne serait pas tué, et que, principalement, je craignais le menteur Ahmed Khan. Alors le général m'envoya cette autre lettre, dit Hadji Mourad, en tendant à Loris Melikov une autre feuille de papier jauni. « Tu as répondu à ma lettre. Merci. » Lut Maurice Melikov. « Tu écris que tu ne crains pas de retourner, mais qu'une souillure faite par un gaillour te l'interdit. Et moi j'affirme que la loi russe est juste, et que de tes yeux, tu verras le châtiment de celui qui a osé te souiller. J'ai déjà ordonné une enquête. Écoute, Hadji Mourad, j'ai le droit d'être mécontent de toi, parce que tu mets en doute ma parole et mon honneur, mais je te pardonne, connaissant la méfiance du caractère montagnard en général. Si ta conscience est pure, si tu portes le turban uniquement pour le salut de ton âme, tu fais bien. Et tu peux tenir haut la tête devant les représentants du gouvernement russe et devant moi. Quant à celui qui t'a déshonoré, je t'affirme qu'il sera puni. Tes biens te seront rendus, et tu connaîtras et verras ce que c'est que la loi russe. D'autant plus que les Russes regardent autrement toute chose. À leurs yeux, tu n'es pas du tout diminué du fait qu'un lâche t'a souillé. J'ai permis moi-même aux Guillorins de porter le turban, et je regarde leurs actes comme il convient. Je te répète que tu n'as rien à craindre. Viens chez moi avec l'homme que je t'envoie maintenant. Il m'est fidèle. Il n'est pas esclave de tes ennemis, mais c'est un homme qui jouit de l'estime particulière du gouvernement russe. » Plus loin, Klugunau exhortait de nouveau Hadji Mourad à revenir aux Russes. « Mais je ne l'ai pas cru, » dit Hadji Mourad, quand Loris Melikov eut terminé la lecture de la lettre, « et je ne suis pas allé chez Klugunau. Principalement, je devais me venger d'Ahmed Khan, et je ne pouvais pas le faire par les Russes. » À ce moment, Ahmed Khan entourait Tselmes et voulait me saisir ou me tuer. J'avais trop peu de monde pour me défendre contre lui. Et voilà que, précisément à cette époque, Chamil m'envoya un messager porteur d'une lettre. Il me promettait de m'aider à me défendre contre Ahmed Khan et de le tuer, et mettait toute la basie sous mes ordres. Longtemps je réfléchis, et je me ralliai à Chamil. C'est depuis que, sans cesse, j'ai guerroyé contre les Russes. Hadji Mourad narra alors tous ses exploits militaires. Ils étaient nombreux, et Loris Melikov les connaissait en partie. Toutes ses campagnes, ses incursions étaient remarquables par la rapidité extraordinaire des marches et par la hardiesse des attaques, toujours couronnées de succès. « Il n'y eut pas d'amitié entre moi et Chamil, » dit en terminant son récit Hadji Mourad, « mais il avait peur de moi, et je lui étais nécessaire. Mais une fois, il arriva à quelqu'un de me demander qui serait Iman après Chamil. J'ai répondu que serait Iman celui qui aurait l'épée la mieux affilée. Cela fut répété à Chamil, et il résolut de se débarrasser de moi. Il m'envoya à Tabarasan. Je m'y rendis, j'enlevai là 1000 moutons et 300 chevaux. Il trouva que je n'avais pas fait ce qu'il fallait, me retira mon commandement et m'ordonna de lui envoyer tout l'argent. Je lui expédiai 1000 pièces d'or, il envoya ses murides et me fit enlever tous mes biens. Il exigeait que je vinsse vers lui, mais je savais qu'il voulait me tuer et je n'y allai point. Il envoya pour me faire saisir de force. Je me suis enfui et me suis rallié à Vorontsov. Seulement, je n'ai pas pu emmener ma famille. Ma mère, ma femme, mon fils sont entre ses mains. Dis au Sardar que tant que ma famille sera là-bas, je ne pourrai rien entreprendre. Je le lui dirai, promis Maurice Melikov. Tâche d'arranger cela. Ce qui est à moi est à toi. Seulement, prête-moi ton appui auprès du prince. Je suis lié et le bout de la corde est entre les mains de Chamil. » Par ces paroles, Hadji Mourad termina son récit.